Vous écoutez
RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. L'after qui continue avec vous tous pendant cette période sans foot, uniquement sur RMC à la radio. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, pour se changer les idées pendant deux heures avec vous ce soir. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Salut tout le monde.
Pierre Ducrot, bien sûr. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et comme tous les dimanches, Lionel Charbonnier. Lionel, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Messieurs, l'événement ce soir dans l'after, c'est la présence de Jérémy Lopez, acteur, sociétaire de la Comédie Française, c'est pas rien, et de surcroît, supporter bien connu de l'Olympique Lyonnais. L'occasion de débattre de la saison de l'OL avec lui, parler de Rudy Garcia, de Jean-Michel Aulas. Le 32, c'est ouvert pour débattre. Jérémy sera là vers 22h25, supporter lyonnais. On vous attend tous au 32-16, bien sûr. D'ici donc une vingtaine de minutes, mais vous pouvez appeler dès maintenant pour réserver votre place. Comme ça, vous avez la garantie de pouvoir participer au débat. Dans quelques secondes, Fred Hermel sera là également. Il nous expliquera le projet de Xavi pour le Barça. L'ancien joueur de Barcelone s'est positionné pour devenir le patron sportif du club. Et à 23h, le retour, puisque vous nous le demandez à corps et à cri sur le hashtag MonAfter, le retour des chapeaux après les numéros 9 la semaine dernière. Ce soir, on s'attaque aux ailiers, au numéro 7, au numéro 11. Donc, les chapeaux à 23h avec vous au 32-16. Le hashtag MonAfter toujours dispo pour nous envoyer vos propositions de sujets. Au long de toute cette période de confinement sans match, bien sûr on y accordera beaucoup de place. D'ailleurs tiens, je peux d'ores et déjà vous dire que suite à notre émission de jeudi dernier consacrée à Michel Hidalgo, on a reçu énormément de messages tout le week-end de jeunes auditeurs qui nous disaient oui, nous aussi on a des souvenirs à partager, c'est pas les mêmes que vous, parce que on est forcément plus jeunes, et donc on va faire, je pense, demain soir
c'est exactement messieurs. Ce qu'on avait proposé, hein, Gilbert, c'est exactement. Ce que j'avais proposé dans la foulée de cette discussion où j'avais dit que justement ce serait intéressant de faire une sorte de découpage générationnel pour voir quels étaient les souvenirs de chacun et de pouvoir en parler.
Je pense que demain on va faire une partie de l'after là-dessus, donc réservée aux afteriens de moins de 30 ans, et puis après on fera peut-être aussi les afteriens de plus de 50, parce qu'il n'y a pas de raison hein. Voilà. Bah non, mais c'est vrai.
Tu as vu les messages, Gilbert, d'ailleurs d'un afterien de 13 ans
je ne l'ai pas vu celui-là.
T'as pas vu ?
Non, il disait
alors,
quoi ?
Écoute, je te ferai passer, mais je suis presque même surpris qu'il ait 13 ans, ou alors chapeau à lui, parce qu'il écrit dans un français parfait. Mm-hmm. Je te ferai passer les messages. Non, mais il raconte plein de choses. J'ai reçu pas mal de messages, donc je te les ferai passer. Tu verras.
T'en feras ce que tu veux. Le hashtag MonAfter, il y en a plusieurs centaines par jour, donc des fois, il y en a qui peuvent nous échapper.
Ah, mais il est impressionnant. S'il a vraiment 13 ans, il a plein d'idées, et puis je te dis, c'est sa rédaction est parfaite, etc. Donc, enfin voilà, ça a attiré mon attention, je te ferai passer.
Il a sûrement 13 ans alors.
Ouais.
Il n'est pas encore pollué.
Il est pour les touches au pied comme toi?
Il m'a pas dit ça. Tiens, d'ailleurs si je peux en profiter, Gilbert, oui. comme on parle de jeunes garçons de 13 ans, j'avais quasiment cet âge là je voudrais juste, avant qu'on commence l'after réellement, rendre un petit hommage et faire une dernière bise à Raymond d'Angoisse, qui nous a quitté en milieu de semaine, malheureusement. C'était une dame bénévole, comme il est né, comme il en existe dans tous les clubs, les petits clubs amateurs. Moi c'était à Saint-Olomone. Elle s'est occupée de nous pendant des années, pendant qu'on était gamins. C'est elle qui lavait nos maillots tous les week-ends pour qu'on soit toujours impeccable, et on avait intérêt de l'être après. Nous on l'appelait mamie, et puis bah voilà, elle est partie cette semaine. Je sais que son fils est un fidèle de l'after qui nous écoute, alors j'en profite pour lui faire une bise et puis dire au revoir à sa maman une dernière fois. Voilà.
Très bien, bah tu as bien fait. Donc à l'époque, mamie, elle te disait les chaussettes pas ensemble et pas en boule.
T'avais intérêt de mettre le maillot dans le short, etc., ouais. etc., de rendre les maillots à l'endroit avec les manches retournées pour pas que elle se les tape. On a tous connu ça, hein, tous ceux qui jouent au foot.
On a tous
eu
une mamie comme ça.
On a connu ça et on a tous eu une mamie, exactement. Exactement.
Mais si on va démarrer ce soir avec Fred Hermel, qui est avec nous. Fredo, bonsoir.
Hola chicos, parce que lui il a de la tue, lui.
Eh oui.
Eh ouais. C'est passionnant quand même, hein, cette interview.
Ça va, Fred, le moral?
Ah oui.
Très bien.
Enfin, il faut.
On suit tes vidéos hein, tous les jours. Bah oui, bah Madrid.
C'est un petit exutoire aussi de raconter.
Non, j'ai vu les pancakes de tes voisins, c'était pas mal.
Ouais, mais s'il y a une solidarité en Espagne qui est vraiment magnifique, quoi. Ça fait plaisir.
Parce que les gars, sachez quand même que Fred, en gros malin qu'il est, il a réussi à se faire refiler, à bouffer par les voisins quand même, qui lui font des petits plats, tout ça, tranquillement.
Enfin, je leur file des bouteilles de Tokaj quand même aussi. Hein. Ils partent pas au change, hein, parce que le pancake maison, il coûte moins cher que les bouteilles de Tokaj. Hein.
C'est évidemment très sympa et c'est chouette de recevoir et tout, mais très franchement, ça m'embêterait presque parce que comme c'est une activité majeure pour moi, parce qu'il y en a pas des masses dans la journée, de faire à bouffer que ça m'occupe, limite j'ai dit non, écoutez, laissez-moi tranquille, ça va me passer le temps, laissez-moi faire.
c'est vrai, mais tu sais, 3-4 fois par semaine,
non mais me prenez pas une activité, déjà que j'en ai pas beaucoup.
Fais-le pour tes voisins.
Ah oui, c'est vrai, tu peux être l'autre.
Voilà, oui.
C'est vrai.
Mais je suis pas sûr qu'ils aiment.
Non, s'ils aimeraient, mais les voisins, bon.
Les vidéos de Fred sur Twitter, vous le voyez avec les pancakes.
Mais non, c'est pas ça du tout. C'est un couple très âgé, vraiment. Et l'autre, il n'y a personne. L'appartement est vide. Donc, voilà.
Ça, ce sont les Parisiens qui sont partis à la maison de campagne, ça.
Non, pas du tout. C'est un truc en travaux.
Les pancakes de Fred, c'était pour 5 personnes, en fait. Hein, mais Fred a tout mangé. Donc,
Bah oui, quand même. Hein. Mais vous savez que je crois que je vais maigrir pendant le confinement.
Ah, ce serait. Hein. D'accord.
Mais tu sais, bah ouais, parce que tu manges à des heures
fixes. Surtout si tu bouffes les pancakes des voisins.
Bah ouais, non, mais tu manges à heure fixe. Tu bouffes pas des sandwichs dégueulasses à minuit dans un stade. Enfin, tu vois, tu prends le temps de manger, etc. Franchement, je dégonfle du ventre. Donc, c'est quand même un petit avantage.
Très bien. Alors, si tu es là, c'est pas pour les chapeaux. Les chapeaux, ce sera à 23h, tu seras là également. C'est pour nous parler de Xavi, qui a donné une très longue interview au journal La Vanguardia. C'est quoi comme journal, La Vanguardia?
C'est un grand journal d'information générale édité depuis Barcelone.
Mais pourquoi il parle à ce journal-là? C'est pas un journal de sport, quoi.
Non, mais en Espagne, tous les journaux sont de sport. C'est-à-dire que tous les journaux d'information générale ont un cahier sport qui est énorme. C'est-à-dire que, franchement, tu prends El Mundo, El País, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, on parle des très grands quotidiens. Ils ont une section, je vais pas dire de bêtises, mais il y a au moins un cinquième du journal qui est de sport aussi, ou un sixième, quoi. C'est très, très important ici, le sport, vous le savez, le football en général. Donc, c'est pas étonnant que Xavi parle dans La Vanguardia. D'ailleurs, c'est pas étonnant du tout qu'il parle en ce moment dans La Vanguardia et qu'il dise des choses aussi importante quand même.
Oui, alors, en substance, en gros, il se positionne. Je veux revenir au Barça. Ça me fait très envie. Il y a quelques années, j'avais un parcours respectable. Maintenant, je me suis vu entraîner. Je sais que je peux apporter quelque chose aux joueurs, dit Xavi. Donc, ça semble cousu de fil blanc que ça va se faire, quoi.
Ah oui, oui. Alors, il faut expliquer quand même la situation de Xavi. Il est au club d'Al Sadd, si je prononce bien, au Qatar. Ouais. Voilà, il est entraîneur. On se souvient que juste avant l'éviction d'Ernesto Valverde, le directeur sportif, ce qu'on appelle le secrétaire technique au Barça, qui est encore là pour quelques semaines, mais bon, qui n'a plus pouvoir aujourd'hui, hein, depuis sa passe d'armes avec Messi, Eric Abidal et Oscar Gros, le directeur général, sont allés au Qatar pour voir Xavi Hernandez pour lui proposer le poste d'entraîneur. Il a refusé. Il a refusé pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne voulait pas reprendre un club en cours de saison, qu'il avait un contrat aussi avec Al Sadd, mais Xavi l'a reconnu aujourd'hui dans l'interview, quoi. Voilà que lui, il voulait prendre un projet depuis le début, commencer une saison et pas être une roue de secours à un moment donné. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est qu'il est très proche d'un certain Victor Font, qui est un homme d'affaires important.
Le frère de José.
Catalogne.
Non, rien à voir.
Ah oui, non, rien à voir. Non, c'est rien à voir. Et qui est un homme d'affaires qui a de l'argent, qui est très présent dans les médias, dans les télécommunications, etc. Et qui est un candidat pour ce qui arrive dans un an, les élections à la présidence du Barça dans un an, qui risque d'être assez rigolote, puisqu'il y a quand même Joan Laporta qui est quand même l'homme du plus grand, le président du plus grand Barça de l'histoire, hein, ça il faut le reconnaître, qui s'était lancé en politique mais qui n'a pas réussi, qui va revenir dans le foot. Bartomeu, on ne sait pas s'il va se représenter, mais en tout cas il aura son candidat à lui. Et puis Victor Font. Quand on écoute Xavi, enfin quand on lit les mots de Xavi dans La Vanguardia, c'est quasiment un programme électoral qu'il présente. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il présente. Alors, il dit qu'il n'a pas de mauvaise relation avec avec Bartomeu, qu'il s'entend plutôt bien avec Laporta, et que oui, il a une vraie amitié avec Victor Font. C'est cousu de fil blanc que dans un an, Xavi Hernandez sera...
Il annonce quand même que s'il vient, c'est le grand ménage. Hein. Parce qu'il dit, moi, j'aimerais travailler avec des gens en qui j'ai confiance, des gens compétents, il ne peut pas y avoir de personnes toxiques autour du vestiaire.
Mais est-ce qu'on peut... Fred, juste parce que c'est un fonctionnement que tu aimes bien expliquer en plus, mais pour que ce soit clair... Xabi qui vient, qui dit « je veux être l'entraîneur du Barça », bon, ok, ça on s'y attendait, mais on est d'accord que ce genre de manœuvre, c'est ce que tu es en train de commencer de dire, mais c'est pour que tu l'expliques clairement, c'est forcément compris dans un projet plus vaste, c'est-à-dire avec un nouveau président, une nouvelle structure, un nouveau projet. Il se dévoile lui en premier, mais derrière, c'est impossible qu'il n'y ait pas un président, dans l'idée de Xabi.
Alors le président n'est pas annoncé, mais tout le monde sait très bien qu'il est avec Victor Font. Même, alors parce qu'on va expliquer quand même, je cite souvent, mais tu as raison de le préciser, Daniel, le Barça appartient à ses socios. Il y a 4 clubs en Espagne qui appartiennent à leurs membres.
Et il y a une élection, quoi, en fait.
Il y a une élection, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une campagne électorale avec des millions d'euros.
Donc on vote pour un projet, c'est ça que je veux dire,
Exactement. Voilà. Et celui qui va se présenter en disant « j'arrive avec Xavi Hernandez comme entraîneur », et Xavi Hernandez qui dit « je veux dans mon équipe Carles Puyol », je veux dans mon équipe Jordi Cruyff, qui sont pas n'importe qui quand même. Cruyff, c'est le nom Cruyff quand même.
Cruyff, c'est le nom. C'est Carles Puyol, c'est le capitaine emblématique.
C'est le capitaine emblématique du meilleur
Barça. Jordi Cruyff, qui est actuellement sélectionneur de l'Équateur.
C'est vraiment une campagne politique. Donc,
ah bah oui.
Est-ce que autre question, est-ce que quand on vend un projet comme ça dans ces élections qui sont particulières et qui n'existent que là-bas, est-ce que tu peux dire et j'aimerais aussi que tel joueur vienne. Est-ce que tu peux avancer des idées bien sur sûr. Les joueurs, sur la construction de ton projet
sportif? Il le fait déjà, Xavi, aujourd'hui. Il dit, je veux des joueurs du style Neymar, des ailiers, voilà. On n'est pas encore dans les chapeaux, quoi. Mmh. Il parle de Sancho.
Il veut refaire une Figo, mais à l'envers, Daniel.
Voilà, il parle de Nabri, voilà. Donc, j'ai halluciné quand j'ai vu cette interview.
Donc là, parce Fredo, que c'est quasiment un programme politique.
Pardon?
Il est parti en campagne politique est en train de préparer son terrain en disant voilà, je viens avec telle équipe et j'aimerais tel et tel et tel joueur. Après, les socios vont dire par rapport à son projet, on le prend ou on le prend pas.
C'est le président.
Il y en a qui veulent peut-être pas Neymar, par exemple.
Il a dit un joueur du style de Neymar. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais franchement, Xavi se présente avec Puyol, il soutient un candidat qui, en l'occurrence, serait Victor Font. Il amène Puyol et Jordi Cruyff. Je voudrais simplement dire un truc sur Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, il serait directeur sportif. Il l'a été au Maccabi Tel Aviv. Il a très bien bossé en Israël. Donc on est sur des gens.
Excusez-moi, les gars. Là, une fois que tu nous dis ça, mettez-vous dans la position des socios.
Tu votes clair.
Non mais c'est quand même déjà génial de se dire attends, je suis simple supporter de mon club et puis je vais pouvoir choisir. Alors lui, il a tel programme, moi ça me plaît moyen, moi j'ai peut-être voté pour lui, c'est quand même génial. Non,
c'est génial.
Bien sûr.
Alors je rappelle les 4 clubs qui sont comme ça en Espagne, c'est le Barça, le Real, l'Athletic Club de Bilbao et Osasuna, et aucun des 3 premiers n'est jamais descendu en deuxième division. C'est-à-dire que il y a un vrai contrôle des socios. Mais faut voir ce que c'est qu'une élection à la tête du Barça ou à la tête du Real.
C'est pas ça qui te garantit de rester en première division. Tu peux avoir aussi des saisons pourries.
Mais comment ça
se passe? Il y a des interviews, il y a des débats.
Mais c'est
une campagne
électorale. Bien sûr. Il y a des campagnes d'affichage. Il y a des millions d'euros qui sont dépensés. Il y a une campagne, il y a une présentation.
Et la participation. J'imagine que les socios, ils vont tous voter là, c'est pas genre les municipales.
C'est pas des participations à
90%. C'est faux, en général,
participations en général, je voudrais pas dire de bêtises, mais en général c'est 50 ou 60%. En général, ça se fait. Non, parce que ça. Ça dépend des clubs.
Pensé que ça aurait été beaucoup plus.
Non, mais en fait, le problème, c'est que les socios ne sont pas tous sur place. Et
ça dépend des clubs.
Voilà, c'est en général ça se passe un dimanche, un jour de match, on vote pendant la journée, etc. Alors il y avait beaucoup plus de participation du temps où il y avait un vote par courrier, mais comme parfois il y a eu un manque de transparence dans certains votes dans certains clubs, il y a des clubs qui parfois, ça dépend de chaque élection, qui interdisent le vote par courrier.
Fred, donc c'est Luis Enrique, peut-être que Xavi a déjà peut-être un concurrent, parce que Luis Enrique ce soir dit qu'il il serait pas contre un retour au Barça dans le futur.
Et peut-être que Luis Enrique sera le poulain d'un autre président.
Ah, mais c'est-à-dire, il peut y avoir des candidats. Ouais. Certes, Xabi serait favori, mais ça peut être costaud parce qu'une candidate. Si Luis Enrique se met sur un autre projet, ça peut quand même.
Ouais, mais je pense que Xavi quand même, c'est. Faut voir ce que. Enfin, Xavi, c'est quoi? C'est dans la tête des gens, c'est Guardiola, quoi.
Puis Xavi, c'est
l'ancien patron sur le terrain.
Avec le Barça, qui... c'est énorme.
Ouais, puis surtout, tu es avec Puyol. Puyol, qui était quand même le grand capitaine du Barça de ces dernières années, quoi. D'ailleurs, le Barça actuel regrette encore Puyol. Il n'y a pas dans le vestiaire un Puyol.
Il fait quoi, Puyol, aujourd'hui?
Il est dans le business, il est beaucoup dans la mode. On peut pas dire que ce soit un mannequin, mais il travaille beaucoup.
Ah, il est libre, quoi, dans son genre, ça peut être un mannequin. Pour Franck Provost, par exemple.
Donc, mais franchement, moi, je trouve que ça va être passionnant de ce qui va se passer parce que là, il y a un vrai combat
Fred,
de projet qui va.
Oui. On reçoit un coup de fil au 32-16 d'Olivier. Il est socio du Barça, figure-toi. Salut, Olivier.
Pour de vrai.
Bonjour, messieurs. Ben oui, je suis effectivement socio depuis 2006.
Ah, comment fait-on pour devenir socio déjà?
Bah, disons que nous, c'était facile du temps de la Porta. Maintenant, il faut qu'on passe. Il y a un
pourquoi? Parce qu'il ouvrait les vannes. Il faut expliquer, il ouvrait les vannes. Il a, oui, en fait, il a ouvert le nombre de Mirus Clusus.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il laissait à tout va des abonnements. Des socios.
Ah,
parce que socios, faut savoir une chose, c'est que on est socios, mais on est sur liste d'attente pour être abonné. Hein. Moi, je suis sur liste d'attente depuis 3 ans. Donc avec le stade, avec la construction du stade qui va être porté à 105 000 spectateurs, si je veux partir de bêtises, comme je suis dans les 98 000 ou dans les voilà, donc je pense que j'aurai ma place, voilà. Mais voilà, moi je voulais.
Tu peux expliquer ce que tu payes, parce que ça, beaucoup de gens me posent la question. Comment
alors,
ça te coûte?
Alors je.
Pour en être, fait, alors on va est... expliquer aux gens, ça veut dire c'est pas un abonnement, hein. C'est ton
non, abonné,
ta cotisation à l'association Barcelone.
Alors je suis socios depuis 2006. Il faut savoir que lorsqu'on est socios au FC Barcelone, on paye au niveau de l'année civile, de janvier à décembre. Je paye cette année 180 euros. Ces 180 euros donnent accès à 20% sur les prix des matchs. On a produit rien du tout au niveau du classico, on n'a que 5%. Voilà. Il faut vraiment faire partie d'une peña pour avoir de la chance d'avoir une place au classico. Jusqu'à présent, moi, je fais partie de la peña FC Barcelona Clan, une peña francophone qui existe depuis 2003.
Oui, c'est très
cool. Dont j'étais président de 2009 à 2013. Et actuellement, c'est Marie Fauré qui habite dans la région de Barcelone. Qui gère cette peña et nous sommes à peu près une soixantaine.
Mais Olivier, il faut expliquer un truc très très important quand même, parce qu'il faut que les gens comprennent. Ça te donne pas de droit de place au stade. C'est uniquement
non,
pour avoir le droit de vote.
Finalement. Oui, alors je précise. En général, on a toujours des places. Hein, on a toujours.
Non, mais
des
pas
places.
Gratuit. Tu dois les payer.
Non, mais pas gratuit. Non.
On c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ça ne paye pas de place au stade. C'est que
tout
tu as un petit accès privilégié. Parce que par exemple, s'il y a une finale de Ligue des Champions, le Barça est qualifié, on va d'abord faire un tiers de sort parmi les socios.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que quand il y a une grande finale, que ce soit la Copa del Rey ou moi, j'ai eu la chance d'aller à Berlin du fait que j'étais présent de la Peña, on a eu 4 places. C'était un moment phénoménal. Et donc du coup, il y a des numéros et en fin de compte, ils font un tirage entre le 2203 numéro jusqu'au voilà.
C'est, oui, il y a un tirage
et
de sort.
C'est par tranche. Il faut savoir.
Et toi, tu peux nous raconter comment tu votes? Alors, je sais pas si le Barça.
Alors moi, j'ai
continue avec le vote par courrier ou si tu vas directement.
Alors moi, pour être honnête, hein, parce que je pourrais me vanter, mais c'est pas du tout le cas. Moi, l'année où Bartomeu a été élu président, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voter, alors que j'aurais pu le faire. Mais là, cette année, en fin de compte, il y a une assemblée, enfin, il y a une convocation, voilà. Donc, il y a les différents présidents, comme toi, tu peux très bien savoir, Fred Hermel, c'est comme les élections présidentielles en France.
Ah, mais c'est exactement pareil.
Où il y a des débats, tout tralala, enfin, c'est, voilà, ils se rentrent dedans, moi, je veux ci, je veux ça. Et donc, ensuite, tous les socios vont voter, on reçoit une convocation. Et en général, quand il vient le vote, c'est toujours un week-end lorsque le Barça joue au Camp Nou. Voilà.
Exactement.
Donc, il y a des jeux, il y a des animations pour les socios, pour les groupes de Peña. Et donc, on va voter, et après, on va voir le match, hein. Et puis après, il y a les résultats qui tombent et voilà ça.
Quelle est la tendance, Olivier, dans vos votes? Est-ce que vous privilégiez un socio s'il privilégie plutôt un staff ou plutôt une équipe proposée par les différents candidats?
Alors en fin de compte,
c'est Daniel, sur les noms que ça se fait quand même.
Oui, 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 bien sûr. Alors en fin de compte, c'est un ensemble. Hein. Je pense que déjà, on regarde dans un premier temps le président qui va se présenter, ce qu'il lui propose et qu'est-ce qu'il veut amener en tant qu'entraîneur par rapport aussi aux jeunes. Parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que moi, quand je descends avec mon ami Bertrand qui fait partie de la Peña et qui est secrétaire de la Peña avec ses personnes à Caen aussi, on se donne rendez-vous. Bah, on descend, mais il faut savoir une chose, c'est que nous, on s'arrête pas au Barça. On va à la Masia. On arrive le samedi matin, on achète Mundo Deportivo, on regarde le programme des jeunes et on va voir les moins de 12 ans, on va voir les petits. Parce que le Barça, c'est pas que le Barça, le beau jeu que l'on voyait avant, parce que maintenant c'est toute une histoire. Hein. C'est la Masia. Voilà, moi j'ai été depuis 2006, je suis fan du Barça, j'ai 48 ans, mais depuis tout petit.
Alors, Olivier, le temps passe. Xavi, voilà. Tu vas voter pour?
Bah écoute, si ces avis se présentent sous la direction de Fonte, bien évidemment, parce que on ne peut plus laisser Bartomeu faire ce qu'il est en train de faire. Ça fait 2 ans que ça va plus, voire légèrement 3 ans. Non, il faut changer parce que il détruit le système de la mafia. Et quand on voit des jeunes qui sont partis pour moins que rien dans d'autres clubs, c'est plus. De toute façon, dès que Pep est parti. Il a eu certes, pas Enrique, il est arrivé après.
Enfin, il était champion avec Luis Enrique quand même. Hein.
Voilà, mais c'est juste. Oui, mais je veux dire, depuis que Peck est parti, ça s'est un petit peu, même si on est remonté avec Luis Enrique, que j'aimais bien en tant que joueur. Donc voilà quoi. Donc moi je sais que j'irai voter, ça c'est sûr et certain. Okay. Là je vais pas passer à côté. Et surtout nous les socios, c'est surtout les socios, les vrais socios, à travers le monde et catalans et voilà, ils veulent surtout que le Barça retrouve son identité de jeu.
Ils ont raison.
Et surtout les jeunes.
Ils ont raison.
C'est hyper important.
Olivier.
Quand je vois, voilà.
On va s'arrêter. Merci, c'était très intéressant.
Merci, Olivier.
De nous raconter tout ça. Et puis,
je vous remercie.
On va suivre.
Et puis,
je passe
le bonjour à toutes les peignards francophones.
Ça marche.
Voilà. Et Visca Barça. Et puis, j'espère qu'il y aura du nouveau d'ici l'année. Enfin, oui, l'année prochaine. 21, c'est ça. Merci à vous et au plaisir.
Salut Olivier.
C'est la première fois qu'on avait un socios, soit Real, soit Barça.
Intéressant.
C'est super. C'est vraiment cette histoire de cotisation parce que c'est beaucoup d'argent quand même. Hein.
Combien de temps il a dit pour passer après être éligible, enfin avoir un abonnement?
Bah là, il a ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il attend là. Il dit.
Ouais, parce que
il y a une liste d'attente de 6 ans, il a dit.
Ouais, en fait, il y a deux politiques le au niveau des socios, c'est-à-dire que Laporta avant, il ne pouvait pas y avoir plus de socios que de places dans le stade. C'est le cas au Real, par exemple. Mais Laporta, parce que ça rapportait de l'argent, parce que ça créait un mouvement autour, a autorisé à ce qu'il y ait plus de socios que de places dans le stade. Et donc, les gens doivent attendre et faire la queue, entre guillemets, être sur la liste d'attente avant de pouvoir attendre qu'un abonnement se libère pour pouvoir avoir une place au stade.
On te retrouve à 23h.
Ouais, avec grand plaisir.
Pour les chapeaux, bien sûr. À tout à l'heure.
On va se marrer. Hein.
Dans quelques instants, Jérémy Lopez avec nous pour parler de l'Olympique Lyonnais. On se retrouve tout de suite dans l'After. Supporters de Lyon vous attend. Olas, Rudy Garcia et tout le reste avec Jérémy Lopez, qui est quand même le supporter emblématique de l'OL aujourd'hui. Hein. En dehors de qui? Ben non, il n'y a que lui. Hein. En dehors de... Qu'est-ce qu'il y a comme supporter people de Lyon?
Violet, Cornillac.
Ah ouais, là, oui, c'est vrai.
Là, d'ailleurs, il faudra lui demander tout de suite comment il se situe. Il faut lui demander immédiatement comment il se situe dans la hiérarchie des people qui soutiennent l'OL.
Ah, mais et puis en termes d'acteurs, c'est au-dessus. Allez, à tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Pierre Ducrot, Lionel Charbonnier, Daniel Riolo ce soir. Alors attention Daniel, parce que tu as encore parlé de tes talents de cuisine il y a quelques instants. Donc du coup, les mails arrivent, sur Direct Studio notamment, quelques messages.
Quand est-ce que j'ai parlé de mes talents de cuisine?
Bah si, au début là, tu as dit ouais, c'est mon plaisir.
Non, j'ai juste dit que ça m'occupait, que ça me passait le temps. Ça veut pas dire être talentueux dans ces cas-là.
Bah, sur Direct Studio en tout cas, on a Jérôme qui nous dit: bon Daniel, depuis le temps que t'en parles, explique-nous enfin comment on fait les pâtes.
Mais si, à expliquer comment on fait les pâtes.
Bah, je sais pas, explique-nous un petit plat, quoi, un truc.
Non, mais là, pas maintenant. On fera ça quand on sera préparé. Là,
bah,
on
va je vais te dire pourquoi on va le faire maintenant. Parce que on a avec.
Mais tu sais quoi, en fait? Tu vas accueillir Jérémy Lopez et tu vas lui poser la question parce que lui, il est venu dîner à la maison, donc il pourra te répondre.
Non, mais attends, parce que moi, j'ai quelqu'un d'autre en ligne pour savoir si vraiment tu nous racontes du pipeau ou si c'est vraiment vrai. Parce que Anna Charbonnier, est avec nous. Bonsoir, Anna.
Bonsoir, ciao, buonasera, bonsoir.
Ah, exceptionnel.
Bonsoir, Anna.
En mode Simone et Rovera. Alors, Anna, ce qu'on va faire, c'est que Daniel, il va nous donner sa recette, on va dire, là où il est le meilleur. Et puis, comme évidemment, la meilleure cuisinière, on sait que c'est toi. Donc, on va voir, tu vas l'écouter et tu vas nous dire si effectivement c'est crédible quand même, tu vois.
Ah, bah oui, c'est un vrai italien.
Ah, Daniel, on t'écoute.
Alors d'abord, il n'y a pas de recette de pâtes, puisque des pâtes, déjà, une fois que tu as acheté une très bonne qualité de pâtes et que tu sais faire les sauces qui sont multiples, enfin les accompagnements qui sont multiples dans la cuisine italienne, tu as réussi un plat de pâtes. Il n'y a pas de je fais pas les pâtes à la main à la maison. En Italie, il y a 5% de la population qui font ça ou qui vont chez certains traiteurs pour les acheter, mais je ne le fais jamais en France en tout cas. Je n'achète jamais les pâtes faites comme ça chez le traiteur parce que souvent elles sont pas d'assez bonne qualité. Donc je prends une très bonne marque au supermarché. C'est une arnaque monumentale en France parce que ça vaut à peu près 3 fois le prix des très bonnes marques en Italie, mais si on veut des bonnes pâtes, il faut faire ça, donc on élimine les marques grand public, mais ça, encore faut-il le pouvoir, et elles sont pas dispo dans tous les supermarchés. Et puis après, il faudrait me demander comment tu fais la carbonara, comment tu fais
carbonara,
par exemple.
Bon, alors déjà, t'élimines tout ce que tu sais de ta recette française, c'est-à-dire les lardons, la façon dont tu fais ton œuf, la façon dont tu fais ta crème, tout ça, ça n'existe pas déjà. Faut vraiment, vous voulez qu'on perde du temps pour faire ça?
Anna, c'est vrai,
il a raison.
Ce que j'ai dit, c'est juste, bien sûr. Après, donc tu ne prends pas, si tu peux, mais encore une fois, ça c'est très difficile. En fait, la cuisine italienne, c'est une cuisine simple, efficace, mais encore faut-il avoir les bons produits. C'est pour ça que je ne vais pas souvent dans les restos italiens à Paris, et pourtant Dieu sait qu'il y en a beaucoup, parce que tu payes très cher des choses qui en fait ne valent pas tant que ça pour peu que tu veuilles te donner la peine de les trouver et surtout que tu saches où les trouver. Donc c'est ça finalement la grande difficulté de cette cuisine très simple. Donc quand on dit la carbonara, oui, si t'as rien d'autre, bah prends la poitrine fumée. Mais si tu as les moyens d'avoir le traiteur qui te donne le guanciale,
la pancetta, du pecorino, c'est ça, surtout à Paris,
on parle pas qu'à des gens qui habitent Paris, donc c'est de plus en plus dur. Donc il faut trouver la bonne charcuterie qui en l'occurrence est le guanciale et pas la poitrine fumée, mais tu peux le faire aussi, pourquoi pas, avec ça si tu as envie. Après, l'œuf, en fait, il ne faut pas le mélanger comme on voit trop souvent en France. Il faut le battre avant et tu le mets au tout dernier moment. Et il faut surtout pas le laisser trop cuire parce que sinon ça te fait de l'omelette dans les pâtes et c'est dégueulasse.
Top, Anna. Ouais. Jusque là, est-ce qu'il a juste
beaucoup de poivre et du pecorino plus que du parmesan.
Anna
évidemment.
Charbonnier, s'il vous plaît.
Alors, est-ce que tu mets l'œuf entier?
Que le jaune.
Alors. Et franchement, quoi, à Rome, ils le font avec deux versions. Normalement, oui, tu le bats et tu mets en entier. Mais c'est mieux si tu mets que le jaune. Moi, je préfère. Voilà. Mais bon, voilà. Tu peux le faire avec tout. Mais le problème, c'est que t'as la difficulté après, c'est que t'as du blanc si tu le mets en entier. Donc, c'est mieux de mettre que le jaune, effectivement, que tu bats avant, que tu mets dans les pâtes. Et surtout, faut faire attention que ça durcisse pas. Parce que sinon, après, t'as l'omelette mélangée aux pâtes, c'est dégueulasse.
Mais parce que, fin de compte, tu le cuis pas.
Oui,
c'est ça qu'il faut surtout.
Il faut juste être réchauffé, il faut qu'il soit chaud et pas froid quand même.
Pas du tout.
Ah, moi j'aime pas quand
du tout. Alors
le goût
là,
du froid, je l'aime pas trop. Je préfère qu'il soit juste chauffé, chauffé.
Non, non, parce que faut que tu rajoutes un petit peu d'eau de cuisson de tes pâtes.
Bien sûr, dans l'après, mais ça tu le fais dans toutes tes préparations, on rajoute toujours un peu d'eau.
Et donc ton œuf, il devient chaud, mais il faut surtout pas le cuire.
Non, j'ai dit pas cuire.
Quand tu as jeté
il faut juste le remuer pour que ça chauffe un peu, qu'il soit pas froid quand tu le manges.
Attention, parce que là on parle. Hein,
c'est une affaire de minutage en fait.
C'est
des secondes.
Tu le fais chauffer, mon coco, ça devient tout sec, tes pâtes.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Mais c'est une affaire de secondes, il faut faire super attention.
Voilà, mais autrement, il faut dire que ce que tu as dit, c'est vrai. Je t'ai dit bravo parce que tu as dit des belles choses. Il faut des bons ingrédients. Et il ne faut pas avoir la science infuse. Surtout, il faut se faire plaisir quand on mange. Hein,
absolument.
Et avec peu de choses, mais avec des bons ingrédients.
C'est pour ça que des pâtes cardo, des pâtes carbo avec du lardon et de la crème fraîche, c'est quand même bon aussi. Quand
en tout cas, moi, franchement, pour moi, ça, c'est même pas, pour moi, ça, c'est même pas admissible, en fait.
Mais
pour
non,
moi,
mais
ça, ça n'existe même pas.
Différemment.
Ça.
Faut que tu te fasses inviter par Daniel. Non, mais je, Daniel, il amène tous les
Je vais pas dire que je sais les faire. Non, je vais pas dire que je sais les faire comme vous, parce que c'est sûrement pas vrai.
En tout cas.
Mais je sais les faire à l'italienne quand même.
Ouais, Anna, merci beaucoup. Aussi bonne que les on voit que chez les charbonniers, il y a toutes les compétences. Hein.
Il est vénard, le yo.
Donc, ça, c'est.
Merci.
Top. Merci en tout
et
cas.
Et bon appétit alors pour qu'il s'y mette à table maintenant. Avec cette belle recette.
Et ciao,
merci,
Anna.
Ciao.
À bientôt. Anna Charbonnier, qui, comme vous l'avez compris, est italienne. Donc, c'est bien pour ça qu'on lui a demandé de superviser les explications de Daniel. Bon, je pensais pas qu'on ferait ça un jour dans l'after, mais on l'a fait, c'était sympa.
Il a été bon, hein.
Ouais, il a été pas mal.
Non, mais oui, franchement, je me vante pas pour rien. Je sais vraiment tout faire de ce côté-là.
Bon, allez. Bon, tu remercieras Anna. Elle a été parfaite.
Oh, et tu embrasses Lionel.
Elle avait la pression, je t'explique pas, la pression. Et qu'est-ce que je dis et comment je le dis mais...
Elle a fait un ciao, bon assera, bonsoir de toute beauté.
Ah, de voilà. Top niveau, ouais.
Qui est déjà le nouveau jingle, Simone Rovera, c'est réglé. Jérémy Lopez nous rejoint pour reparler foot, hein, cette fois et pas carbonara. Jérémy, bah,
lui, bonsoir. Lui peut témoigner. Hein. Lui, bon, c'est, ça peut être un des témoins de la soirée. Hein.
Salut, ça va ?
J'ai l'impression que je suis tombé sur une autre émission. Hein. je suis un top chef.
Juste l'espace de 3 minutes. Hein. On revient aux bases.
Bon, bonjour à tous.
Salut. Alors, on est ravis de t'avoir parce que c'est pas facile de t'avoir parce que t'es tout le temps sur scène en temps normal. Donc,
bon bah là, vous laissez tranquille. Hein.
Ouais. Donc, là, c'est le moment.
Ça se passe bien ton confinement? T'es à Paris ou t'es à Lyon?
Non, j'ai pas pris le risque de quitter Paris. Donc, je suis avec ma compagne et mes enfants enfermés depuis 15 jours dans mon appart à Paris.
Bon.
Voilà.
Alors, t'es avec nous, on est ravis parce que c'est l'occasion de parler de l'OL, puisque tu es ce qu'on appelle désormais dans le monde des médias un influenceur.
Ouais, alors attends,
c'est la vérité.
Alors attends, je vous ai écouté juste avant.
Ouais.
J'ai entendu le mot people. Je suis en rien à people. Hein.
Jérémy, il faut assumer. Tu sais bien qu'à partir du moment où on a une certaine notoriété, on est rangé dans cette catégorie.
Un personnage public,
voilà.
Non, mais à partir du moment où Wallace répond à un de tes messages, un de tes tweets, t'es un people.
Voilà.
Bah alors, il y a beaucoup de people sur Twitter.
Ouais. Il y a des people de 13-14 ans, hein, déjà.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas le bon.
Non,
le tout
est de savoir en introduction, parce que c'est important de faire un bilan, c'est comment tu te situes dans la hiérarchie people de l'OL. T'es devant Clovis Cornillac, t'es derrière, t'es devant Benjamin Biolay, t'es derrière. Toi, on a besoin de savoir. On a vraiment besoin de savoir
alors,
aujourd'hui.
Alors, c'est simple. Comme je ne suis pas people, je suis très loin dans la hiérarchie, si tu veux. Non, non, je suis. D'ailleurs, j'ai rencontré Clovis qui est vraiment un vrai gros dingo de l'OL et un fin connaisseur aussi.
Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que tu es acteur et sociétaire de la Comédie Française et donc vrai supporter de l'OL acharné.
Oui.
D'ailleurs, première question que je te pose, Rudy Garcia, t'en penses quoi, toi? Est-ce que t'étais comme la majorité des supporters de l'OL quand il est arrivé, t'étais contrarié et aujourd'hui, quelques mois plus tard, où est-ce que tu en es?
Alors, quand j'ai su que le nouvel entraîneur allait être Rudy Garcia, j'ai été inquiet parce que je savais que ça allait un peu compliquer une situation qu'il était déjà au niveau des relations avec les supporters. Je savais que ça allait être compliqué et que ça allait prendre un peu plus de temps qu'un entraîneur autre que Garcia. Après, j'étais sceptique avant son arrivée. Maintenant, je ne me pose même plus la question. C'est-à-dire qu'il est là. Il faut suivre le truc en espérant que tout aille bien et que tout soit fait pour qu'il travaille le mieux possible. Je dis ça aussi surtout pour une chose, c'est que je le dis très sincèrement. Si ça devait un jour, ce que j'espère pas, mal se passer, dans un futur à moyen ou long terme, je ne veux pas qu'on puisse dire si ça se passe mal avec Garcia, c'est parce qu'il a été pris en grippe dès le départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand c'était un peu plus difficile pour Bruno Genesio, évidemment, ce qui a été dit, c'est oui, mais tout le monde a détesté Genesio rapidement, il y a eu une pétition, tout de suite, ça ne l'a pas aidé. Et en fait, le problème, c'est que les supporters un peu sceptiques ont été tout de suite visés. Et on a pu dire après, oui, mais ça s'est mal passé aussi un peu à cause des supporters qui n'avaient pas confiance, qui étaient méfiants. Qui
c'est une excuse un peu trop facile, quoi, en fait, c'est ça?
Oui, donc moi, je préfère garder ma crédibilité. Et si un jour, ça doit se passer mal, qu'on ne puisse pas me dire, mais c'est depuis le début que tu es contre. Je sais pas si c'est assez clair.
Oui, enfin, voilà, moi, parce que c'est un petit peu ce que tu as ressenti par rapport à l'affaire Genesio. Peut-être pas toi personnellement,
oui,
mais par rapport.
Ouais. Oui, non, pas moi personnellement, mais c'est ce que j'ai entendu, mais c'est ce que j'ai lu, et c'est pas très grave.
Mais ça, tu veux plus le vivre, t'as raison.
Ben non, mais c'est-à-dire que pour être. J'ai l'impression que pour être crédible, pour être entendu, il faut déjà essayer d'être le plus calme possible, mais surtout de parler au bon moment. Je pense que si tout le monde attaque Garcia tout de suite, on dira que. C'est parce que les supporters ont été durs tout de suite et qu'il n'a pas été dans les bonnes conditions.
Tu veux dire, il faut donner sa chance au produit, quoi, en quelque sorte. Quoi. Bah, voilà. Maintenant, il est là et puis. Sans vouloir, mais en général, les histoires d'entraîneurs dans les clubs, dans 90% des cas, ça se termine mal.
Évidemment, mais quand ça termine mal, généralement, il y a une période où ça se passe bien. Donc j'espère qu'on va avoir une période où ça se passe bien.
Vous avez quand même, je dis vous, Jérémy, les supporters lyonnais, des rapports quand même toujours compliqués avec vos entraîneurs, comme si vous n'arriviez pas à trouver le mec avec qui une belle histoire va s'écrire. En fait, c'est simple, je me demande même le dernier entraîneur qui a pu te faire kiffer, quoi, avec qui t'as pu...
Non, je vais te dire, c'est pas si loin que ça. Dans l'histoire d'un club, c'est pas loin. Après, c'est pas hier non plus. Mais Garde, Rémi Garde, est quelqu'un qui a
fait l'unanimité. Et sur toute la période, Rémi Garde, ou même là,
oui,
s'il y a eu un peu...
Oui, quelqu'un, Rémi Garde, si tu veux, c'est l'entraîneur, je pense, enfin, tu vois, il y a, sur les 10 dernières années, qui a fait le plus kiffer les supporters. Alors que c'est celui qui avait le moins de moyens, qui avait l'effectif le tout pourri. Parce qu'il y avait quelque chose. Et pourtant, tu vois, c'est le même... C'est la même histoire que Bruno Genesio. C'est un enfant du club, c'est un ancien joueur, c'est quelqu'un qui connaissait les jeunes, qui les a vus grandir, qui les a pris, qui les a montés en équipe première.
Reconnais que c'est pas des masses quand même. Il y en a pas beaucoup, hein, des entraîneurs avec qui vous avez une relation.
Mais en plus, il en a peut-être profité, Jérémy, de ça. C'est peut-être justement parce que tous les fans, les supporters de Lyon savaient qu'ils n'avaient pas de moyens et donc on était un peu plus indulgents.
Évidemment. Et pourtant, quand tu regardes, il y a eu des grandes vibrations pour les supporters à l'époque Garde. Et pourtant, il a tenté des trucs. On a eu des équipes improbables. Il a tenté des choses très risquées parfois. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a été aimé par les supporters, protégé par les supporters. Et même excusé parfois, même de mauvais matchs ou de mauvais résultats.
Alors attends, le temps passe. Passons au dossier Aulas. Toi, quand Aulas a fait sa sortie là au début du confinement sur il faut geler le championnat, reprendre le classement l'année dernière et tout, donc on a tous vu venir gros comme une maison, est-ce que tu as été gêné, voire même en disant là, mon président, il a déconné grave, ou est-ce que tu avais plus tendance à le défendre? Quel était ton positionnement?
Alors, dès la première lecture, je dis putain, il va se faire tuer. C'est-à-dire que le timing est évidemment pas bon.
Bah oui.
C'est pas la question de Gilbert, Jérémy. Hein. C'est pas la question qu'il t'a posée, Gilbert.
Bah si, pourquoi?
Non, il t'a demandé ce que tu en avais pensé, pas ce que devaient penser les autres. Là, tu es en train de nous dire, il va se faire tuer et tout. Donc tu penses à ce qu'éventuellement pensaient les autres. Pas à ton cœur à toi, il a dit quoi, ton cœur?
C'est-à-dire que, bon, mais tu le sais, parce qu'on en a parlé.
Non, mais oui, d'accord, mais les gens, ils savent pas comment on a parlé.
Je me suis dit, putain, il va se faire défoncer. Daniel, j'ai trouvé le timing vraiment limite. Et je me suis dit, putain, pourquoi il dit ça maintenant? On s'en fout, on n'a pas envie d'entendre parler de foot. Et surtout, c'est trop tôt. On était en pleine panique, en plein début de confinement, c'était très compliqué. Après, avec le recul, vous verrez. Et après, je défends pas. Moi, je m'en fous quand je suis pas d'accord avec le président ou avec Jean-Michel Aulas. Je veux dire, j'ai pas d'intérêt, je m'en fous. J'ai toujours dit quand j'étais pas d'accord. Vous allez voir que cette question qu'il a sortie, elle va se poser ailleurs, dans d'autres pays, et on va pas être non plus éloigné de ce qu'il a dit. Vous allez voir. Après, je vous dis pas qu'il a raison, j'en sais rien.
T'as moi, trouvé ça pas, choquant sur le fond ou pas?
Comment?
Sur le fond, t'as trouvé ça choquant?
Ben, sur le fond, c'est pas. Non, choquant, je trouve que c'est trop. Moi, j'ai entendu.
Ah bah, dis donc, si c'est pas choquant, ça m'étonne de toi quand même, choquant. Bah,
parlons du fond. On parle que de foot. On est d'accord?
Ouais.
Si on parle que de foot, c'est pas choquant. Le terme choquant, c'est quand même très très grave de dire.
Ah, c'est pas choquant, pour les supporters de l'OM à qui tu dis on efface toute votre soirée aux Rennais qui ont jamais vu la Ligue des Champions, qui sont troisième, qui s'accrochent comme des dingues. C'est pas choquant de leur dire, ben non, vous allez vous carrer au cul les 28 matchs?
Non mais attends, je t'ai jamais dit.
Ce que veut dire Jérémy, c'est qu'il y a pire pour parler de quelque chose qui te choque et que ça reste quelque chose d'éventuellement
plausible,
envisageable, voilà, plausible. Après, effectivement, je te rejoins Daniel, c'est peut-être pas la solution qui nous paraît la plus logique quand même, voilà.
C'est pas mais le problème c'est que si tu veux quand moi ce que je comprends aussi avec le recul, c'est ce qui me surprend de Jean-Michel Aulas, c'est qu'il est malin, il gère très bien la com, il sait ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait un peu avoir, c'est-à-dire que c'est une question sortie de son contexte et qu'il n'a pas fait une interview sur le sujet en disant c'est ce qu'il faut, c'est ça. La question, alors dites-moi si je dis une grosse connerie, hein, mais la question c'est si on annule le championnat, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si on annule le championnat, on l'annule, on part à zéro. Ouais. C'est pas lui qui a dit il faut annuler le championnat et on annule et on garde le championnat.
Non, la question
de l'année dernière.
Ouais, l'idée c'est plutôt. Non, l'idée c'est plutôt.
C'était si, pas une question effectivement, ouverte, c'était une question fermée.
Oui, mais le problème c'est qu'on est passé de ça ne va jamais se terminer à on fera tout pour que ça se termine.
Ouais, en fait, ce qui était gênant, c'est qu'à ce moment-là, on était absolument dans la certitude de se dire que ça allait reprendre à un moment ou à un autre. Voilà.
Oui, mais et après, si vous, ça ne se termine pas, Jérémy. Et après, si ça ne se termine pas, Jérémy. Alors après, tu te mets autour de la table, mais visiblement pour des raisons économiques que tout le monde comprend, ils vont tout faire pour. Mais si jamais ça ne devait pas se terminer, alors là, oui, il y aura débat avec. On prend l'année dernière, ce que je trouverais affreux. On arrête à la 28e. Bon, bah voilà. On fait une espèce de barème en prenant des points sur. On prend les points de cette année, mais mixés, machin. Enfin, je sais pas. On discute d'autres trucs. Ça, d'accord. Mais lui ne s'est pas, positionné comme ça. Lui, immédiatement, il est arrivé en disant, ah, mais de toute façon, si ça finit pas, le mieux, c'est de prendre le classement de l'année dernière, c'est de faire saison blanche. Alors, qu'il soit pas le seul à l'avoir dit.
Surtout, tout le monde a vu que c'était à son avantage. C'est surtout ça,
voilà, en fait, qui était choquant. Le problème, c'est que c'est toujours ça, et qu'on ne me fera jamais croire que ce qui domine avant tout dans sa tête, c'est toujours l'intérêt est le sien et jamais, alors qu'il dit le contraire, l'intérêt du football français.
Jamais.
C'est normal, Daniel.
C'est pas normal, Pierre. Les autres présidents en Europe font pas ça.
Petite pub très courte et on continue le débat. Pierre, tu auras la parole. Jérémy veut répondre également. Et Lionel, toujours là. Bien sûr, on se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
On est de retour donc avec Pierre Ducrot, Lionel Charbonnier, Daniel Riolo et Jérémy Lopez, donc acteur, sociétaire de la Comédie Française, supporter de l'OL bien sûr. Pierre, la parole est à toi, tu voulais rebondir sur ce qu'on disait sur Jean-Michel Aulas et ensuite Jérémy répondra à son tour.
Non, je suis relativement d'accord avec Jérémy sur le fait que de toute manière, peu importe le fond derrière, le timing et la forme étaient tellement mauvais, qu'on pouvait presque plus s'intéresser au fond ou en tout cas le rendre crédible. Et ce que je voulais dire à Daniel, je suis pas d'accord avec Daniel peut-être, c'est en général un président de club quand il réfléchit un petit peu et qu'il communique, c'est souvent quand c'est à l'avantage de son club. Sinon. Au mieux, il se tait et au pire, il fait semblant. Mais t'en as très peu qui vont aller défendre quelque chose contre les intérêts de leur propre club, quand même.
Bah, surtout que lui, il a souvent un temps d'avance et il sait se projeter, anticiper la situation.
Arrêtez de dire qu'il a un temps d'avance, ça fait 10 ans qu'il a un temps de retard. Arrêtez de dire qu'il a un temps d'avance, mais c'est faux.
C'est parce qu'il a arrêté, ça l'était déjà prêt. Arrêtez, Daniel, sa réponse, elle était déjà prête.
Les uns après les autres. Jérémy.
Sa réponse.
Alors, Jérémy.
C'est pas le débat, Daniel. On n'est pas en train de. Je suis pas là pour défendre Aulas. Non, mais très honnêtement, je suis pas là pour défendre Aulas. Je m'en fous. Mais par contre, on parle. Là, le débat est. On part ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, et je pensais pas dire ça ce soir, parce que j'ai vraiment, hein, mais de dire qu'Aulas n'a jamais rien fait pour le foot français, c'est pas juste.
J'ai pas dit ça, Jérémy.
C'est ce que j'ai cru comprendre.
C'est jamais
dans l'intérêt du foot français, mais toujours dans le sien. Cite-moi un président en France qui a fait quelque chose de plus, qui a fait plus collade pour le foot français depuis 15, 20 ans. Après, il peut avoir des défauts.
L'intérêt du foot français, elle est dans le même sens que celui de l'OM.
Il n'y a pas eu de mec qui sont restés aussi longtemps que lui à la tête des clubs. Mais si faire quelque chose pour le foot français, c'est juste, gagner des matchs ou qui finalement ne font pas gagner le foot français. Dans ces cas-là, qu'est-ce que.
Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je suis partagé. Je connais rien. J'ai pas votre connaissance sur la globalité du foot français, du championnat et du bordel dans lequel on va.
Non plus, Jérémy, t'inquiète pas.
Moi, on ne va pas reprendre ce championnat. C'est impossible. Quand on est rentré en confinement, je me dis mais comment tu veux qu'on joue avant l'été? Très honnêtement, les gars s'arrêtent d'habitude à la trêve estivale, on s'arrête 15-20 jours, les mecs s'arrêtent 20 jours, il leur faut 2 mois de matchs amicaux et de reprise et de faire des stages à Tignes ou à je ne sais où pour reprendre
Mais tu ne reprendras pas dans des conditions normales, Jérémy. Mais tu reprendras dans des conditions exceptionnelles.
Donc, c'est tout comme l'arrêt s'est fait. Le seul truc, moi, que je trouve, mais après, je peux me gourer parce que je n'ai pas tous les paramètres, c'est qu'il faut à tout prix que cette saison, et je vous jure, que je ne dis pas ça parce que c'est une saison de merde pour l'OL, parce que ça l'est. Et ça, elle restera, cette saison de merde, dans le championnat, j'entends. Mais il ne faut pas que cette saison, qui n'est pas encore terminée, qu'on ne sait même pas comment elle va se terminer, il ne faut pas que ça soit un boulet pour les championnats futurs.
Donc toi, tu dis mieux vaut rien finir.
Mais c'est un boulet si on arrête maintenant.
Quand j'entends, tu vois, j'ai lu le truc dans l'équipe de Rivière de Nice, sa proposition. Mais tu as toujours une bonne idée, mais dans chaque proposition, tu as une bonne idée, mais ça ouvre quatre
problèmes.
Bordel.
Ouais, tout à fait.
Donc le problème, c'est que tu as envie, toi, d'avoir un championnat de ne pas le terminer, et en même temps que ce championnat pas terminé, que ces 10 journées qui restent, elles soient à l'automne-hiver, et qu'après on commence le championnat à moitié.
Pour l'instant, on sait pas.
Le vrai problème, Jérémy,
c'est un débat de supposition.
On ne sait pas, effectivement,
toutes les solutions qui sont avancées, il n'y en a pas une qui a l'air plus crédible que l'autre, et que de toute façon, il faudra attendre de savoir si tu vas au bout ou pas avant de commencer à émettre des hypothèses sur ce qu'on pourrait faire.
Lionel, tu veux rajouter un truc avant qu'on parle de Juninho?
Oh, vite fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, que tu fasses, alors soit tu vas privilégier l'aspect financier et tu dois terminer, soit ça ira à l'encontre du jeu qui va être proposé.
Mais quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais de bonne solution.
Jamais.
Jérémy, Juninho, t'en penses quoi là, c'est début et tout. Est-ce que tu te dis c'est l'homme de la situation? Est-ce que t'as des doutes? Où est-ce que t'en es par rapport à lui?
J'ai aucun doute sur Juninho. J'espère juste que.
T'en as eu un peu en septembre, t'as flippé un peu?
Non, j'ai flippé, ouais. J'ai flippé, mais j'ai pas douté de ses capacités à faire du bien au club. J'ai flippé qu'il se barre.
Ah, ça oui, bien sûr, ouais.
J'ai flippé que les supporters perdent de la confiance. J'ai flippé, je me rends compte aussi que Juninho, même s'il a une façon très, très spéciale et très propre à lui de communiquer, c'est ce qui fait que Juninho était le mec qu'il fallait au club. C'est-à-dire qu'on avait besoin, sans même parler de compétences d'organigramme ou de tactique ou de foot, mais on avait besoin de quelqu'un qui soit transparent. C'est con à dire, mais quand on joue mal, on avait besoin de quelqu'un qui nous dit « on joue mal, et voilà pourquoi on joue mal ». On a des manques. Voilà, quels sont ces manques-là?
T'as besoin d'un discours clair et honnête, quoi, en fait, qu'il n'y avait pas avant.
Il est clair et honnête, et c'est quelqu'un, et je pense que vous le connaissez bien, qui a tout. Je le crois sincèrement, je pense qu'il a déjà tout compris, pas au fonctionnement du club, mais à tout ce qui manquait au club.
Je pense qu'au bout de quelques mois,
il a tout de suite compris qui faisait du bien, qui faisait du mal.
Oui, comment ceux qui faisaient du mal pourraient faire du bien avec un peu de boulot et un peu d'accompagnement. Je pense qu'il a tout saisi. Après, je pense que ça prend énormément de temps et que ça se fait pas facilement.
Et surtout qu'il doit rattraper du temps perdu. Parce que j'en reviens toujours à ça. Pour moi, ça fait pas mal de temps que, hors structure, hors solide, Lyon ne travaille pas bien sur la constitution de son équipe, sur le jeu développé, sur son rôle et à tenir dans le football français, à savoir être le deuxième club de France. Il y a un retard qui est monstrueux. Je veux bien que vous me ressortiez tout le temps la même rengaine, on travaille bien, on fait ceci, on fait cela. Les classements de Lyon sur ces dernières années, le classement en cours de cette année, ce qui est pratiqué, les crises entre supporters et entraîneurs, toutes ces choses-là me font dire que Lyon a un retard par rapport à son standing et à son statut depuis des années qui doit être comblé. Et oui, je pense, je suis d'accord avec toi, Jérémy, que Juninho, ça, lui, il le sait, et, oui, qu'il a envie et de bien bosser pour le club, ça, j'en doute même pas une seule seconde, mais que le chemin à refaire, il est assez important, parce que ces dernières années, ça n'a pas bien travaillé, ça, j'en suis convaincu.
Jérémy, comment tu vis ta passion lyonnaise, toi? Tu rates pas un match, tu suis les réseaux sociaux, dès que t'es au last tweet, t'es à bloc, enfin, comment ça se passe?
Bah oui, comme tous les supporters, je pense, je loupe pas un match. Après, je joue presque tous les soirs, donc
Comment
je regarde le match pendant que je joue, bah, entre les.
Ah scènes, oui, ça c'est énorme, ça raconte Jérémy, ça c'est incroyable que tu puisses faire ça. Non mais franchement, écoutez, c'est dément, franchement.
Bah c'est-à-dire que quand il y a un match, j'ai mon téléphone et je suis obligé de le voir, de le mettre, même si je peux pas le voir et que je suis sur scène, il est allumé et ça me rassure qu'il soit allumé. Donc quand j'ai entre quelques scènes, si j'ai 10 minutes de pause, je vais voir le. Ce qui se passe, et puis généralement je regarde le match une fois et puis je le revois le lendemain calmement pour plus analysé, tu vois.
Et quand la scène se termine et que tu quittes la scène quelques minutes, t'es capable d'aller regarder et de revenir avec le texte dans ta tête tout frais qui ressort, oui, toi tu dis oui bien sûr, mais je t'assure que c'est épatant, vraiment c'est épatant.
Tu sais, au théâtre,
quand on connaît vos textes en plus à la Comédie Française, moi je trouve que c'est fou, franchement c'est fou.
C'est-à-dire qu'au théâtre on nous apprend à être au présent et à ne pas jouer une pièce avant d'être sur scène. Je pense que c'est comme un match que tu dis un jour.
C'est comme au foot, on joue pas le match avant.
Excuse-moi,
on joue les matchs les uns après les autres.
Quand tu reviens sur scène et puis que tu as, je sais pas, une réplique, ça peut pas t'arriver de faire une boulette et de placer un Toko et Kambi à la place de Roger, par exemple.
Non, ça, il n'y a pas de risque.
Mais et t'arrives tout de suite à éclipser la défaite si jamais t'apprends que t'es en train de prendre une tôle et pas une tôle. Allez, tu pensais gagner, tu perds 2-1 la dernière minute, tu dois faire ta tirade et là, tu as les nerfs ou non, tu t'arrives à tout de suite
oublier. Ah oui, j'ai les nerfs, oui. Non, oui.
Et tu rentres sur scène,
t'es un peu rempli et nourri par un truc, tu vois. Mais après, les gens ne le voient pas puisque t'es quand même une situation. Après, tu peux l'utiliser, tu vois. Tu l'utilises au présent. Je me souviens du but contre, tu sais, à Saint-Té, du match à Saint-Té.
De cette année?
Ouais.
On prend un but, je vais pas dire bêtises, un peu sur le tard. Je rentre, il y a un but, et puis je laisse mon téléphone au foyer des artistes où il y a tous les acteurs qui attendaient, qui n'étaient pas sur scène à ce moment-là. Et je dis, je laisse le téléphone, j'y vais. Et puis en fait, j'entends la réaction et je sens. J'étais à 20 mètres du foyer des artistes et je vois les copains un peu faire une gueule en disant. Et je me dis, putain, je crois qu'il y a eu un but. Et je vais faire ma scène et je ressors et ils me disent, bon, Saint-Té a marqué, on est désolé. Je dis, on n'a pas voulu réagir pour pas que tu sois perturbé.
Oh là là. Le mieux, ça aurait été d'avoir un pote stéphanois qui saute. Ah ouais.
Mais non, mais tu vois, Lionel, ce qui est beau, c'est que ça n'est pas possible d'avoir un pote stéphanois.
Dis-moi, pour conclure, oui. T'as pas un peu la nostalgie de Gerland? Parce que nous, à chaque fois qu'on va dans ce stade-là, qui est super loin et tout, je sais pas. Ouais,
Moi, avant de. Tu sais, je suis venu à vivre à Paris pour rentrer à la Comédie Française. Et jusqu'à ce moment-là, je vivais à Décines. Donc pour moi, c'est pas loin. C'est chez moi. J'ai toute ma belle famille qui vit à Décines encore. Donc au contraire, c'est chez moi. C'est là où j'ai fait mes premières conneries. Tu vois, c'est cet endroit-là.
Donc il s'est rapproché de chez toi, en fait. Donc,
il s'est rapproché de chez moi. Après, bien sûr, tu as la nostalgie de Gerland. Mais c'est, si tu veux, c'est le passé. Je l'ai déjà dit, mais j'aime l'OL parce que mon grand-père m'amenait quand j'étais petit au stade. Et que, comme tous les supporters... je pense que tu as un lien aussi familial avec un club.
Ouais. Moi, je suis dingue de Lyon parce que j'aime mon grand-père qui me manque et que c'est aussi le moyen de me souvenir de lui et de le rendre hommage. C'est un peu étrange ce que je dis, mais.
Non, mais on connaît ça.
C'est propre du supporterisme. Ouais. Du supportisme.
Et aujourd'hui, t'arrives à retrouver ton identité aujourd'hui?
Par rapport à quoi? Par rapport au stade?
Quand t'étais jeune, par rapport au stade, par rapport au jeu, à la politique technique mise en place et tout, tu t'y retrouves? Tu trouves que c'est comme avant ou les choses ont changé et tu regrettes ou t'es content?
C'est dur quand t'es supporter, c'est compliqué de comparer et de trouver mieux avant ou après. T'es dingue d'un club et
tu grandis avec.
Si je suis encore là dans 25 ans, j'en serai encore autant dingue. Et même si tout va mal, j'en serais. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai aimé l'OL quand j'étais enfant. J'ai aimé l'OL quand il a perdu à Maribor avec Anderson qui venait d'arriver. J'ai aimé l'OL quand il a gagné à 5-0 à Saint-Té. Tu vois, peu importe. Mmh. C'est un truc qui. Bon.
Jérémy, merci en tout cas. On arrive au bout. Il est 23h. C'était sympa de t'avoir. Hein. C'était l'occasion, vu qu'on est arrivé à la maison.
Depuis le temps qu'on t'attendait, Jérémy.
Si j'ai deux minutes, je voulais vous dire merci parce que ça fait beaucoup de bien. On est en une période difficile pour les soignants, les gens qui sont obligés de travailler et qui n'ont pas forcément envie de travailler. On a envie de se dire que le foot, c'est pas grand chose et qu'il y a des choses beaucoup plus importantes en ce moment. Mais ça fait quand même du bien. Vous êtes là et vous faites beaucoup de bien, je pense, aux gens.
Bah, donc, écoute, c'est pour ça que nous, on a voulu absolument continuer. Et puis, bon, nous, en vrai, travailler, ce qu'on fait, nous, travailler pour de vrai, c'est plus dur quand même, on va pas se mentir.
Bien sûr, mais je pense aux caissiers, je pense aux livreurs, je pense à plein de gens.
On pense à eux aussi.
Ouais, et merci.
Merci, Jérémy.
Merci à toi, Jérémy. À bientôt dans l'after.
Ciao.
Les chapeaux, les gars, vous êtes prêts? C'est parti, dans quelques instants.
RMC. L'after foot.